dans le monde. Union européenne. Une crise qui est aussi celle d'un capitalisme sénile. Le non des électeurs irlandais au traité de Lisbonne a relancé les commentaires sur la crise de l'Union européenne, comme on en avait entendu en 2005 après le double non des électeurs français et hollandais au traité constitutionnel. Une fois de plus, les dirigeants européens cherchent à sauver la face, tout en poursuivant la mise en place des institutions qu'ils estiment nécessaires au fonctionnement de l'Union européenne qu'ils veulent construire. Car, pour ceux-ci, l'opinion des électeurs européens n'a pas grande importance. On l'a vu ici quand quelques centaines de députés ont imposé par leur vote le traité de Lisbonne, copie à peine allégée, 300 pages de texte et 3000 pages d'annexes, du traité constitutionnel rejeté par des dizaines de millions d'électeurs. Même si aujourd'hui l'Union européenne permet la libre circulation de près de 500 millions d'Européens, un progrès indéniable, la construction européenne a d'abord été et reste une construction économique qui entend d'abord offrir aux grands groupes capitalistes européens un marché de taille moins rachitique que le seul marché national. Elle a démarré avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier, mise en œuvre pour relancer des économies rendues exsangues par la Seconde Guerre mondiale. Elle s'est poursuivie en 1957 par la création du marché commun, regroupant l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Les bourgeoisies de ces États avaient compris que, pour relancer l'économie, il fallait un abaissement des barrières douanières pour permettre aux marchandises de circuler plus vite et faire prospérer les économies des États membres. Mais, dès le départ, cette construction fut aussi jalonnée de conflits opposant les intérêts divergents des États membres. Ainsi, c'est parce que l'Allemagne y devenait trop puissante que les représentants de la France, jusqu'alors hostiles à l'entrée de la Grande-Bretagne, en devinrent des partisans en 1973 pour faire contrepoids à l'Allemagne. Mais, de 1957 à 1995, le marché commun, devenu Union européenne en 1992, passé par paliers successifs de 6 à 15 pays, n'avait pas modifié l'équilibre de pays voisins sur le plan économique et social. En revanche, l'élargissement à 25 en 2004, puis à 27 en 2007, en faisant entrer dans l'Union notamment des pays de l'Europe de l'Est, moins développés, a amené les pays les plus riches à remettre en cause son mode de fonctionnement. Jusqu'alors, les principales puissances européennes avaient imposé un mode de fonctionnement à l'unanimité. La chose était évidemment plus difficile à 25 ou 27 qu'à 6. D'autant que les pays les plus riches risquaient de voir des décisions qu'ils estimaient nécessaires bloquées par une coalition de pays plus pauvres aux intérêts divergents. Le traité constitutionnel de 2005, comme sa version prétendument entre guillemets allégée, décidée à Lisbonne, garde en commun un mode de fonctionnement à la majorité qualifiée qui doit permettre aux grands pays européens de continuer à tirer les ficelles de l'Union sans que leurs décisions les plus importantes puissent être contrecarrées par des États moins puissants. Évidemment, le vote irlandais n'arrange pas Sarkozy, qui avait pris la pose du entre guillemets sauveur de l'Europe en tirant à lui la couverture du traité de Lisbonne, concocté avec les autres dirigeants européens, et qui espérait de surcroît tirer un bénéfice politique de sa posture de président de l'Union des 6 prochains mois. Mais au-delà du non irlandais, la crise de l'Union européenne a des racines plus profondes. Dans la crise actuelle du monde capitaliste, les intérêts nationaux des grandes puissances de l'Union européenne ont plus que jamais tendance à l'emporter sur les intérêts communs. On a pu le voir dans la question du budget de fonctionnement de l'Union, où les pays les plus riches ont refusé d'augmenter les crédits pour des dépenses d'infrastructures en direction des nouveaux entrants, notamment à l'est de l'Europe, bien que ces infrastructures auraient au bout du compte profité surtout aux grands trusts des pays les plus riches en leur permettant d'amener leurs marchandises au fin fond de l'Europe. Mais les États européens ont préféré utiliser leur argent pour subventionner directement leurs propres trusts. De même, l'Union est au bord d'une révision de la politique agricole commune. Celle-ci serait certainement utile aux agriculteurs des nouveaux pays entrants. Mais les principaux bénéficiaires de la PAC d'hier sont devenus des grands trusts agroalimentaires qui se déploient désormais sur le marché mondial. Il restera à Sarkozy à faire avaler cette révision à son électorat paysan. Malgré l'élargissement de l'Union européenne, en plus d'un demi-siècle, les États européens n'ont pas réussi à unifier leur continent et restent tributaires d'une division politique archaïque entre des dizaines d'États. une division dont les capitalistes tirent profit en ce qui concerne les droits sociaux, en jouant sur les différences de salaire allant de 1 à 10 entre l'Ouest et l'Est de l'Europe, qui leur permettent de tirer la salaire vers le bas. Même si, par un nouveau tour de passe-passe, les dirigeants européens parviennent à faire ratifier le traité de Lisbonne par l'Irlande, ce n'est pas demain la veille qu'ils unifieront vraiment l'Europe. Jacques Fontenoy.